On fera un best-of à la rentrée.
Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe? Eh bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Chers amis, je vous propose qu'on passe à l'invité de la semaine. Je vous demande d'accueillir notre invité. Il est journaliste pour Brut, réalisateur d'un documentaire qui va sortir sur Prime Video la semaine prochaine, mercredi prochain. Il revient sur la Love Army et sur le personnage de Jérôme Jarre. Un tonnerre d'applaudissements pour Charles Villa.
Bonsoir.
Salut Charles. Je suis super content de t'accueillir sur le plateau de Backseat.
Merci.
À nouveau, je crois que t'étais déjà venu sur la première saison.
Ah non.
Non, t'étais pas venu ?
Mais non.
Quand je te dis, quand je te dis.
C'est dans une autre émission.
Eh oui, non.
La mémoire de l'émission.
La mémoire. J'aurais dû demander à Léa avant.
Mais ça faisait longtemps que je voulais venir, donc.
Mais écoute, ça me fait super plaisir, d'autant plus plaisir de t'accueillir pour la première fois. Tu es journaliste, grand reporter pour Brut. On t'a vu en Syrie, on t'a vu en Ukraine, on t'a vu en Tchad. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi ton domaine de spécialité ? C'est l'international ? C'est les crises ? C'est les guerres ? C'est quoi ?
Oui, c'est entre guillemets, c'est la géopolitique, mais je travaille principalement en zone de conflit et sur les crises humanitaires.
D'accord.
Donc, je travaille surtout au Moyen-Orient en ce moment et en Afrique subsaharienne.
Pourquoi tu as choisi de faire ça chez Brut ? Ça s'est fait comment ?
Ils cherchaient un grand reporter. Je suis arrivé chez Brut il y a 7 ans maintenant, en 2017. Ils cherchaient un grand reporter assez jeune. Mmh. Et on n'est pas tant que ça, en réalité, à faire ça. Et ils m'ont recruté après un reportage, notamment le tout premier que j'ai fait pour Brut, c'était celui-là, la Love Army au Bangladesh, avec plein de créateurs de YouTube, et ça a commencé comme ça.
On va en reparler. Et c'était la première fois que tu faisais un reportage?
Ouais, c'était mon tout premier reportage.
C'était ton premier, t'es allé au Bangladesh avec la Love Army. Bon, on va en reparler dans pas longtemps. Est-ce que Brut t'offre des conditions particulières de travail que tu pourrais pas faire à la télé, par exemple, pour faire du documentaire?
Ah ouais, j'ai carte blanche.
Ouais, okay.
Je fais ce que je veux, quand je veux, je pars où je veux. Ils me font suffisamment confiance pour que je puisse traiter les thématiques que je veux. Donc ouais, non, ça à la télé, ça n'existe pas.
Ok, d'accord. C'est qui tes modèles ? Tu t'es inspiré de créateurs sur Internet ou pas sur Internet, d'ailleurs ?
Grand reporter. Ouais.
En vrai, il y a un journaliste que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle Johnny Harris, qui a une grosse chaîne YouTube aussi. C'est un journaliste qui a beaucoup voyagé et fait de reportages dans des zones où je suis déjà allé, qui travaille pour un média américain qui s'appelle Vox.
Ouais.
Oui, et Vox, donc lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais sinon, en vrai, sur YouTube en France, il y a très peu de journalistes qui font du contenu. Il y a très peu de médias qui font du contenu adapté à YouTube. Donc c'est difficile. Moi, mes modèles, c'est plutôt ce qui se fait aux États-Unis.
Ouais, t'es un peu iconoclaste dans le paysage français. C'est intéressant. Un autre truc qui est intéressant dans ton travail, dans tes documentaires, c'est que tu te mets en scène. Parfois, il y a une notion d'incarnation et ça donne quasiment naissance à une communauté, Charles Villa. On se sent être avec toi sur le terrain. C'est une signature particulière de ton travail ?
Ça l'est devenu en le pratiquant, en fait. Moi, j'ai surtout commencé à incarner mes reportages parce que je savais que ça permettrait de leur donner plus de visibilité sur YouTube. YouTube, c'est vraiment une plateforme de créateurs. Donc, le contenu incarné marche beaucoup, beaucoup mieux que celui qui ne l'est pas. Donc, c'est avant tout pour ça, parce que moi, je venais du documentaire sur France 5 Arte, complètement désincarné,
etc. Ouais, ouais.
Rien à voir.
La vieille voix off.
Exactement. Et c'est vraiment pour toucher un public plus large que j'ai commencé à faire l'incarnation. J'y suis pas allé avec un plaisir fou. Et au final, vu que ça parlait beaucoup aux gens, j'ai persévéré là-dedans. Et ouais, maintenant, c'est difficile de pas incarner ce que je fais sur le terrain.
Léa ?
Ouais, moi ce qui m'intéressait dans ce que tu disais, et notamment dans tout le travail que tu fais, aussi tous les youtubeurs que tu as pu suivre, notamment Love Army, etc.
Ouais.
On vient de faire un dossier chez Popol sur féminisme et internet, et on a vu notamment comment la cause féministe était très présente sur les réseaux sociaux, tous les points positifs que ça pouvait avoir en termes d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, etc. Mais aussi parfois des points négatifs, où on voit que certaines personnalités peuvent un peu effacer la cause, en quelque sorte, du fait de leur personnalité, et que les gens vont être plus au taquet pour suivre la personne que vraiment s'intéresser à la cause. Et aussi d'autres qui, par ailleurs, en font un peu un fonds de commerce, tu vois, de manière un peu opportuniste. Est-ce que c'est des choses que toi, t'arrives à... Comment dire ? Comment tu t'anticipes ça aussi ? Et comment tu l'analyses par rapport à cette nouvelle vague émergente mi-journaliste, mi-influenceur, influenceuse ?
Ouais. Moi, je pense que c'est une histoire de dosage. Tu vois, je pense que si je me mettais trop en scène, si je tournais trop la caméra vers moi dans mon travail, on me le reprocherait tout de suite, surtout dans ces zones-là où je filme des gens qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. Et donc, c'est une histoire de dosage. J'essaye de de me mettre en scène dans les moments où je peux vraiment apporter quelque chose d'explicatif ou de contexte, que tu peux difficilement le faire dans un plateau à Paris. Tu vois, si je vois quelque chose, bah, je vais soit le filmer, soit tourner la caméra pour montrer, donner une explication, mais je le fais pas tant que ça en réalité dans mes reportages. Souvent, il y a un plateau au début de contexte pour expliquer pourquoi je suis parti là-bas, à quel moment, etc. Et après, il y a quelques plateaux in situ, mais j'en mets pas trop. Et surtout, je me mets rarement en scène dans les échanges avec les gens. Une fois que je suis avec les gens, en général, je les filme eux, je suis en séquence avec eux, ils vont être seuls face à l'image quand ils vont parler de leur, leur histoire, et je vais pas être à côté d'eux, tu vois, par exemple. Donc, je pense que c'est surtout une histoire de dosage. Et après, par rapport aux influenceurs, encore une fois, moi, je suis tellement seul, en fait, dans ce que je fais aujourd'hui que j'ai pas trop d'autres exemples avec qui comparer. Toi, tu penses à qui, par exemple, notamment sur les causes féministes?
Non, mais je pensais, par exemple, notamment, tu vois, sur, typiquement sur Love Army.
Ouais.
T'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça, quoi. Enfin, on va pas tout disclose maintenant, mais c'est surtout sur cette expérience-là que je voulais avoir ton retour.
D'accord.
Quoi.
Ouais, alors en fait, mais ça, c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment un reportage et de la création de contenu à proprement parler. La Love Army, ils y allaient vraiment pour essayer d'aider. Et l'objectif, c'était de lever des fonds et après de faire des projets. Mmh. La création, c'était important pour lever les fonds, donc faire des vidéos, des stories, etc. Mais ce n'était pas l'essence même du projet. Et pour lever des fonds, c'était obligé d'incarner, enfin, en tout cas pour lever beaucoup d'argent comme ça, c'est pour ça que c'était une forme de révolution aussi. Il fallait forcément que ça soit incarné par des gens que les gens connaissent ou des créateurs que les gens connaissent massivement pour pouvoir lever des fonds très vite. Donc je pense que dans un premier temps, oui, ils effacent un peu la cause, mais si c'est fait intelligemment, tu peux vite avoir la levée de fonds et ensuite on laisse la place à l'histoire des gens sur le terrain.
Alors,
pareil, c'est une histoire de dosage. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui n'y arrivent pas du tout, des influenceurs qui n'y arrivent pas du tout et qui font même de la merde sur le terrain en se mettant en scène tout le temps dans des trucs assez cringe. Ouais, ça arrive, mais pour le coup, moi, j'ai pas trop été en contact de ça dans ce que moi j'ai pu faire.
On te reçoit ce soir, Charles, parce que tu viens de réaliser un documentaire qui va sortir mercredi prochain sur Prime, produit par Brut, ouais, qui s'intitule « Love Army, où es-tu Jérôme ?». Tu y reviens notamment sur une série de reportages que tu avais fait, tu en parlais entre 2017 et 2019, sur Jérôme Jarre, un influenceur qui avait décidé de se lancer dans l'humanitaire et qui a complètement disparu des radars depuis 2019. On va regarder un extrait de ce documentaire qui sort mercredi prochain. Bravo, bravo Charles pour ce documentaire donc, qui sort mercredi prochain. Sur Amazon Prime, je précise que Vincent, qui fera son PowerPoint tout à l'heure, participe également au documentaire en tant que journaliste. Il travaille avec toi sur cette enquête que tu mènes. Est-ce que tu peux essayer de nous résumer l'affaire déjà pour ceux qui ne connaissent pas? C'est qui ce Jérôme Jarre et c'est quoi cette histoire de Love Army qu'il a lancée?
Alors Jérôme Jarre, c'était un des influenceurs français les plus connus dans le monde. C'était une énorme star de Vine, un réseau social qui a disparu, qui est un peu l'ancêtre de TikTok. Et c'était un des influenceurs les plus connus dans le monde, le français le plus connu dans le monde sur Internet. Et il avait même lancé la carrière de pas mal de très gros influenceurs américains. Et c'est aussi un des premiers créateurs à avoir décidé d'utiliser sa notoriété pour essayer de faire le bien, entre guillemets. Mmh. Et donc, il s'est lancé dans l'humanitaire. Il a commencé par des petites missions jusqu'à une première très grosse mission en Somalie pour essayer d'aider les gens victime de la famine, et ça a été un raz-de-marée international sur les réseaux sociaux. Ça a été partagé dans le monde entier, enfin, c'était sans précédent. Ceux qui ont assisté à ça à l'époque sur Twitter et Insta, je pense qu'ils s'en rappelleront. Et après, il a décidé de faire une mission, juste après celle-là, quelques mois après, il a fait une autre mission au Bangladesh pour essayer d'aider les réfugiés Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie qui a trouvé refuge au Bangladesh. Et avec lui, il a emmené des très gros créateurs français comme Mr. V, Seb, Le Grand JD, Natou, voilà. Et notamment aussi Omar Sy et DJ Snake, qui sont des très, très gros artistes. Et ils ont levé plusieurs millions de dollars en quelques semaines. Et après, ils ont développé des projets humanitaires dans le camp. Et donc moi, pour Brut, à l'époque, j'avais suivi cette levée de fonds. Et ensuite, j'y étais retourné, je le dis là dans le petit teaser que vous venez de voir. J'étais retourné pour essayer de suivre le développement des projets qui avaient l'air de se passer bien au début jusqu'à que, en fait... quelqu'un m'alerte dans ces projets qui s'occupait des projets et qui m'a dit que ça se passait pas aussi bien que ce que Jérôme racontait sur les réseaux sociaux.
Donc, d'accord.
C'est l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé vraiment au cours de cette mission.
Malek,
On peut dire qu'on a vu le début de la série docu et que j'ai vraiment kiffé. Ça m'a surtout permis de me rappeler le phénomène que c'était. Jérôme Jarre, j'avais complètement oublié. Et en vrai, je crois que je faisais même partie de l'élan parce qu'il se permettait d'interpeller sur Twitter des grands dirigeants, des grands
multinationales,
des grands patrons, voilà.
Les présidents. Ouais, ouais.
Et ça marchait en plus des fois. Donc,
ah, il répondait. Hein.
Et la force de frappe était incroyable. Est-ce que tu dirais que, malgré toute sa bonne volonté, il s'est retrouvé dépassé par la machine?
Ouais, bah, pour resituer un peu dans le contexte, c'est quelqu'un qui est devenu une star des réseaux sociaux assez jeune, aux alentours de 22-23 ans. Et au moment où je suis la Love Army, on est en 2017, on a tous les deux 27 ans. Et lui, c'est un des influenceurs les plus connus dans le monde. Il peut mobiliser les plus grandes stars du monde entier, hein, et pas que les réseaux sociaux, des artistes, ouais, des grands acteurs, etc. Sportif. Il peut interpeller des présidents, des multinationales. Donc, il avait un pouvoir phénoménal pour quelqu'un de 27 ans. Et ouais. C'est vrai que quand tu resitues dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de ce que c'est la pression des réseaux sociaux, de ce que ça peut provoquer en termes de santé mentale, etc. Lui, c'était l'influenceur qui recevait le plus de notifications, je pense, dans le monde. Enfin, en tout cas, le Français qui en recevait le plus et qui avait une ambition folle, c'était vraiment de révolutionner le monde de l'humanitaire. Et à cet âge-là, ça l'a sûrement dépassé à un moment ou à un autre.
Léa ?
Il y a peut-être un truc qu'on a oublié de dire, je crois, c'est qu'en fait, on n'a pas de nouvelles, c'est ça ?
Il a disparu
des réseaux sociaux.
En gros, à partir de... Il a arrêté de communiquer sur la Love Army au Bangladesh en 2019, à peu près. Il a fait 2-3 posts sur Instagram début 2020. Ensuite, il a complètement disparu pendant 2 ans et demi.
Ouais,
il est revenu en juin 2022, où il a posté sur Twitter le bilan de la Love Army, le rapport final, un peu sorti de nulle part. Et il est revenu là très très récemment sur les réseaux sociaux, fin décembre, au moment où on était en train de terminer le documentaire.
Instagram.
Et il est au courant qu'on fait ce documentaire, parce que évidemment je l'ai contacté. Etc.
C'est ce que j'allais te demander, t'as échangé avec lui ?
Ouais, on a échangé par mail, parce qu'il n'a pas voulu répondre dans une interview filmée aux questions que j'avais à lui poser, donc on a échangé par mail pour qu'il y réponde.
Antoine ?
Tu dis dans le petit extrait qu'on vient de voir, les réseaux sociaux peuvent aider les populations civiles. Et de manière plus globale, à quel point tu penses justement que ce type d'engagement dans la vie de la cité ou dans l'humanitaire, qui passe pas par des institutions classiques, établies, qui peuvent avoir toute leur lourdeur, mais aussi une forme d'organisation qui est plus structurée et plus professionnelle, est-ce que tu penses que c'est vraiment un modèle pérenne ?
On en parle beaucoup dans le doc, de ça, que en fait, c'est deux mondes assez différents. Et je pense que c'est ça le problème qu'a eu Jérôme, c'est qu'il s'est heurté à une réalité qui est extrêmement complexe. Les crises humanitaires, c'est des sujets très difficiles. Le terrain, c'est si tu t'inscris pas dans le temps, c'est quasiment impossible d'avoir une action pérenne et efficace dans l'humanitaire. Donc, on revient un peu là-dessus, qu'il s'est pris un mur du réel, mais qu'en même temps, c'était un outil formidable pour faire évoluer des situations, pour interpeller des puissants, tu vois, qui sont concernés par ces sujets-là. Donc, on l'aborde un petit peu. Et moi, tu vois, de par mon travail, qu'aujourd'hui, je travaille principalement sur les réseaux sociaux, je produis des documentaires sur YouTube, mon travail a beaucoup plus d'impact dans le réel qu'à l'époque où je travaillais à la télévision. Donc je pense que c'est des outils qui sont vachement complémentaires. Et le problème qu'a eu Jérôme notamment, c'est qu'il a essayé de créer une séparation entre ces deux mondes et de faire ça un petit peu dans son coin. Et c'est là où ça a bloqué, c'est que les grandes ONG, elles s'inscrivent dans la durée, c'est des grosses structures parce qu'il faut des grosses structures. Le monde humanitaire, c'est des corps de métiers extrêmement différents.
Il y en a beaucoup. L'expertise, des compétences.
Il faut une énorme expertise. Donc, il y a très peu de place à l'amateurisme si tu veux faire les choses bien et si tu veux pas créer plus de souffrance que les populations dont on parle.
Ça me fait penser à Zerator qui lui a souvent été interpellé sur son chat par des gens qui lui disent vas-y, crée ton asso pour les events.
Ouais.
Et Zerator qui a toujours répondu non. Non, c'est un savoir-faire. Moi, je récolte de l'argent pour des associations et des organisations qui existent déjà, qui ont pignon sur rue, qui savent gérer des millions parce que c'est dur de gérer. Enfin, c'est un savoir-faire. Ouais. C'est une matière particulière. Toi, tu as suivi le The Event. La semaine dernière, on recevait Mister MV qui est venu nous parler de Speedon. Quel regard est-ce que tu portes justement sur ce caritatif en ligne, sur ces personnalités d'Internet, j'en ai fait partie, incite à faire des dons?
Moi, je trouve ça super. En vrai, j'ai suivi la plupart des The Events. On s'est croisés plusieurs fois.
Ouais.
Et j'essaie toujours de mettre en avant ce type d'initiative, un peu comme je l'avais fait à l'époque sur Brut avec la Love Army, parce que je pense que c'est important de soutenir des associations qui sont sur le terrain et qui parfois font le taf que ne font pas les gouvernements. Et ouais, je trouve que c'est le bon modèle. C'est-à-dire, tu choisis, en plus, bah, le dernier The Event, c'était sur l'environnement. Et in fine, ça a été des associations qui ont été choisies par le public. Moi, je trouve que c'est la meilleure formule de parler de certaines associations qui sont sur le terrain, qui font du taf, et que les influenceurs lèvent des fonds, mais qu'après, ils laissent faire le travail à des professionnels qui sont déjà implémentés dans ces milieux-là. C'est vital. Et après, quitte à avoir, et ça, je l'ai fait notamment avec Zera et Dash, de les accompagner pour qu'ils suivent les projets de temps en temps, ponctuellement, pour voir comment l'argent a pu être dépensé. On l'a fait avec Sea Shepherd, j'avais fait avec Action contre la faim, etc. Et pour moi, c'est ça le meilleur modèle. C'est cette complémentarité-là.
Qu'est-ce que cette affaire, Jérôme Jarre? Alors, je sais pas, est-ce que tu dirais que la Love Army a été un fiasco?
Non. Non,
pas du
tout.
C'est pas un fiasco.
Non, parce
que c'est pas une arnaque.
Mais on en parle un peu dans le documentaire, notamment avec les créateurs qui reviennent beaucoup sur cette expérience-là. Je vais pas dire que les Rohingyas, très peu de gens en auraient entendu parler si Omar Sy et les créateurs n'y étaient pas allés, parce qu'il y a plein de médias qui en parlaient, qui faisaient le taf. Mais ça fait pas forcément la une des JT régulièrement, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils y sont allés, la presse en a parlé pendant une semaine non-stop. Enfin, tu pouvais pas ne... Même si tu regardais les médias traditionnels, le JT de TF1 en a parlé, etc. Tout le monde parlait que de ça. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parlait que de ça. Donc, ça permettait quand même de mettre la lumière sur des crises qui, par exemple, quand moi, je travaillais à la télé, mais tu vois, je couvrais beaucoup la famine en Afrique subsaharienne. C'est pas que ça intéressait personne, mais ça intéressait pas forcément les médias et c'était difficile de rendre ça visible. Là, le vrai pouvoir de la Love Army, pour moi, c'était ça. Et ensuite, cette capacité de lever des fonds qui aurait pu permettre de déployer tout de suite pour des associations des gros projets humanitaires qui sont vraiment utiles et qui viennent vraiment en aide aux gens et qui sauvent des vies. Non, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'était une très belle aventure qui a eu plein de défauts. Et c'est ce qu'on raconte dans la série documentaire. Mais qu'il faut pas que ça soit derrière... la leçon qu'on voulait donner avec ce documentaire, on voulait surtout pas que ça soit il faut pas donner quand des influenceurs se rendent dans ces endroits là en fait, faut le faire, mais il faut qu'il y ait un contexte et il faut que ça soit très encadré.
Léa,
quand tu parlais de la nécessité de s'inscrire un peu dans le long terme sur ce type de couverture d'événements, toi, lorsque tu vas dans un pays en guerre, que tu fais tes documentaires, etc., comment tu arrives à assurer un suivi de l'évolution de la situation? Parce que tu vois, par exemple, on parle beaucoup, c'est-à-dire que je pense par exemple à la Birmanie, post-Rohingya. Ensuite, il y a eu aussi cette question de toute la guerre civile, toutes les manifestations qui ont été très sévèrement réprimées. Et c'est vrai que nous, on s'était dit, un an après, on va voir un peu ce qui se passe. Et on avait eu plein de messages de gens qui nous avaient dit, mais merci d'en reparler. Parce qu'en fait, on a eu les projecteurs qui ont été braqués dessus pendant des semaines. Et puis après, ça t'est un peu tombé dans les oubliettes. Comment toi, t'essaies justement de faire en sorte que les sujets que tu traites ne soient plus jamais oubliés, en fait?
La clé, c'est la récurrence. En vrai, c'est la seule chose qui permet, et puis même, je pense que ça ferait beaucoup de bien aux médias d'être plus récurrents sur toutes ces crises-là. Et je fais une grosse généralité, parce que même moi, je retourne pas régulièrement sur tous les endroits où j'ai pu y aller, même si aujourd'hui, j'essaie de plus faire de nouvelles zones, j'essaie de retourner dans les pays où j'ai pu travailler. Mais c'est la récurrence, la clé, c'est d'y retourner régulièrement, de pas laisser tomber ces crises dans l'oubli. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, quand même pour les journalistes qui travaillent dans des médias, parce qu'en vrai, il se passe tellement de choses dans le monde. Les effectifs sont réduits, donc il faut aussi faire des choix sur les crises qu'on va couvrir, etc. Moi, chez Brut, on est plusieurs à faire ça, mais en réalité, je suis celui qui parle le plus à l'étranger. Et mine de rien, je ne peux pas être partout tout le temps.
Ouais, bien sûr.
En sachant qu'il y a des endroits où je suis allé, où je ne peux plus aller, parce que j'y suis allé... sous une fausse identité. Enfin, tu vois, j'ai trouvé des techniques pour rentrer dans certains pays et qui aujourd'hui me mettraient en danger si j'y retournais. Donc c'est assez complexe. Mais le fin mot de l'histoire, c'est la récurrence. Et donc c'est pour ça que moi j'essaye. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, j'essaie de retourner en République démocratique du Congo parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas et je veux y retourner pour continuer à raconter ce qui s'y passe parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. Et voilà, c'est comme ça que je bosse.
Et on va également essayer de rester exigeant avec les hommes et les femmes politiques. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le jeu à la con. Alors, le jeu à la con, comme chaque semaine, vous allez devoir deviner... tiens, fais passer à ta voisine.
On en parle de cette transition?
Ouais, non, elle est scandaleuse.
Elle est incroyable.
Absolument, ce que j'ai pu. Ça, c'est pour toi, Charles.
Ok.
Elle est au panthéon de toutes les transitions.
Malek. Dedans, vous avez les solutions des autres joueurs, sauf le vôtre. Okay. Et vous allez devoir deviner votre personnage en posant des questions.
Je suis touché parce que c'est la première fois qu'on m'accepte sur ce jeu. C'est On vrai. M'a toujours refusé l'accès au plateau.
T'as jamais réclamé.
On m'a dit, Vincent, casse-toi après ta chronique, tu sors tout de
suite.
Oh
my
god. C'est faux, c'est faux.
Il y a un thème.
C'est faux.
Ouais, il y a un thème.
Est-ce qu'il y a un thème? S'il y en a un, je ne le connais pas.
Bah, et du coup, bah, ça marche comment?
Ah si, 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 il y a un thème.
Ça marche comment?
Il y a un gros
thème.
On
doit poser des questions. Chacun notre tour.
Chacun pose des questions. Alors, chacun son tour. En vrai, c'est un peu le bordel. Mais tant qu'on te répond oui à tes questions, tu peux continuer à en poser. Quand on te répond non, c'est à quelqu'un d'autre.
Ok. C'est qui le plus fort là dans le groupe?
C'est moi.
Qui a fait ses preuves?
Moi, c'est Léa.
Moi, je crois que j'ai déjà le mien.
C'est
de fait. Franchement, si t'as le tien, c'est que t'as triché.
Ben, je te jure que non.
Non, je suis la moins bonne, mais.
Je crois que tout le monde a compris qu'il y avait un point commun entre les personnages. Il va falloir quand même que vous deviniez le vôtre, chers amis. Charles, pose des questions, vas-y.
Donnez-moi des réponses.
Bah, c'est une femme ou un homme déjà?
Alors,
c'est quoi la question?
C'est un homme. C'est un homme.
Jean-Pierre Chevènement.
Non, non, Léa, on ne triche pas.
Tu vas trop vite. Ben non, tu ne peux pas deviner Léa. Il faut que tu poses plein de questions avant pour savoir.
Ah oui, donc c'est moi, je dois trouver tout seul.
Tu dois trouver tout seul ton personnage.
Ok, c'est un homme politique français?
C'était. Je ne devrais pas te le dire.
Non, on n'a pas le droit, c'est oui ou non.
C'est oui ou non. Normalement, la question, c'est oui ou non.
C'est pas grave.
Oui ou non?
Non, on reprend, on reprend. On change les personnages.
Et du coup, c'est un homme politique français?
La réponse est oui.
Est-ce qu'il est mort?
Oui.
Est-ce qu'il est mort dans les années 80?
Non.
Dans les années 80.
Et là, du coup, tu poses plus de questions. Ça
ouais.
Parce que j'en ai posé combien?
Non, parce
c'est juste que
t'as
dit non. C'est juste que j'ai dit non.
Ah, d'accord.
Mais t'as jamais joué à ce jeu? Enfin, là, c'est juste normalement avec les
bouts. D'habitude, on est plus bourré, on a des poissons sur le crâne. Mais là, c'est.
Non. Ouais, bah, c'est désolé.
Qu'est-ce que tu veux poser des questions?
Moi, je veux bien.
Bon, Malek, vas-y, essaye.
Parce qu'en fait, regarde, il y a un thème. Il y a un thème. Il y a un thème global, ok? Et j'ai essayé de faire un peu de déduction. Donc, est-ce que suis-je un député français?
Oui.
Ok. Ok.
Super ta démonstration.
Attends. suis-je député depuis très longtemps?
Oui.
Oui. Est-ce que j'ai déjà fait une petite conf call avec Baxit pendant la réforme des retraites?
Oui.
Non.
Eh ben, je suis Charles de Courson.
Bravo.
C'est impossible, il a triché.
Non. Charles, je te jure que je n'ai pas triché.
Tu as triché.
Charlie, 100%.
Il y a un thème,
je sais pas si on peut voir le chat. 100%, on peut faire un
sondage. Et il se trouve que.
Il a triché, tu peux pas te prendre en 3 questions.
Est-ce que j'ai plus cher?
S'il avait le thème ouais, commun à tous les personnages, tu l'auras découvert, c'est que tous les personnages s'appellent Charles.
Ah, mais ça fait pas.
Ah, mais je vais l'avoir.
Ok.
Ah, mais d'accord.
Donc, déduction, parce que ça va vite là-dedans. Et il se trouve que Charles de Courson, c'est un peu une grosse resta pour nous, tu vois. Donc voilà.
Chelou, mais il y a une hype. Il y a une hype chelou dans Charles le chat autour de Charles de Courson. Chat de d'accord, Courson.
Ah, je comprends, j'ai jamais. Okay. Pourquoi j'ai jamais joué avant?
Moi je pense que j'ai. D'accord, dans ce cas-là, oui, évidemment que tu peux trouver.
Bah, qu'est-ce qu'il veut essayer du coup, Vincent?
J'ai d'être ça, purée.
Donc je suis un homme politique.
Oui.
Ouais.
Oui.
J'ai un mandat en cours, ça va pas
non.
Du tout m'aider.
Non.
Allez, à toi, Léa.
Ah bah non. Alors, est-ce que je suis un homme?
Oui.
Oui.
Ok.
Oui.
Est-ce que je suis en vie?
Oui.
Oui. Oui.
Est-ce que
ça laisse pas mal.
Mon prénom est Charles.
Oui.
Oui.
Ah. Est-ce que mon nom de famille est Charles?
Non.
Et non.
Antoine, tu veux essayer?
Oui, je pense que je sais qui
des
c'est.
Notes.
Ah bah vas-y.
Est-ce que je suis un homme?
Oui.
Est-ce que je suis un roi?
Oui.
Charles III.
Let's go.
Bravo Antoine.
Mais comment? Donc, genre en deux questions, vous trichez les gars,
mais
c'est pas possible.
Non, tu cherches, non, il est docteur, il est docteur.
Mais pourquoi il va directement en deuxième question?
Parce qu'il est docteur en sciences politiques.
Mais oui,
il faut que ce soit un Charles connu, vu qu'il y en a déjà quand même pas mal sur le avec les autres qui sont sur ton papier.
Une seconde, deuxième question, tu parles direct sur le roi.
Je vais tenter un.
Alors, moi aussi. En tout cas, c'était la.
Ok, Vincent.
Allez, Vincent.
Donc, je suis mort.
Oui.
Oui.
Est-ce que j'ai eu un rôle très important dans l'histoire de France?
Oui.
Oui.
Notamment dans les années 39-45.
Oui. Mm-hmm.
Charles de. Bon, Charles de Gaulle. Oui.
Ouais, mollo sur le.
Ah, je suis tellement soulagé d'avoir fini.
Ça nous laisse avec Léa et Charles.
Tu joues pas?
Moi, je joue pas, non.
Ok, donc c'est à moi.
Là, c'est le privilège du présentateur, je joue pas.
Donc, on a déjà fait Charles de Courson, on a fait Charles de Gaulle, on a fait le roi.
Je note ce que j'ai.
Donc moi c'est un homme politique français qui est mort et qui est pas mort dans les années 80.
Ils ont vie ?
Non.
Est-ce qu'il a été ministre ?
Oui.
Oui.
Allez Charles.
Est-ce que c'était un homme de droite?
Oui.
Oui, oh oui.
Mais tous, hein.
Oui, oui. Des Charles de Gaulle, il n'y en a pas
bah,
de
non, ça,
ça marche pas, il y a un
cherche,
problème dans la maths.
Charles Marx, un peu.
Charles Marx.
Oui, donc il a été ministre.
Il a été ministre, il fut ministre.
Ministre de droite qui s'appelle Charles. Ah, bah d'accord, ok, je crois que je vois
ah,
qui c'est.
Bah, oui.
Attends, ah, bah vas-y, lâche-moi.
Est-ce que c'était un élu des Hauts-de-Seine?
Oui.
Ouais.
Est-ce que c'était un élu dur et un petit peu corrompu?
Oui.
Charles Pasqua.
Bravo.
Léa. Bah, je suis un peu dans la merde du coup. Est-ce que.
Allez, Léa,
toi, t'as le plus dur.
Pardon?
T'as le plus dur.
Ah. Bah ouais. Super, merci.
Oui,
on comprend
dur,
pourquoi ouais. Je me fais à chaque fois Ken. Hein. Moi, bon, on reviendra pas là-dessus. On s'étonnera pas pourquoi je suis nulle.
Il est pas français.
Ah.
Ah. Ah bah oui. Ah, franchement, non, bah, alors là, t'as donné le truc.
Bah.
Ah bah. Allez.
Bah non, il l'avait déjà. Ah bah non. Bah.
Il est en poste.
Ah. Franchement, t'as des beaux indices.
Est-ce que c'est... non, c'est pas un prénom composé.
Non.
Il y a une histoire avec les prénoms quand même. Oui. Non, je dis ça, je dis rien.
Une prédisposition au prénom.
Sur d'autres familles, il ressemble trop à un prénom. Il adore les prénoms.
Jean-Charles,
non,
je sais pas, moi, Charles-Henri.
Non.
Non, non, non.
But...
Il est pas français.
Qui fait l'accent?
J'ai tellement...
est-ce qu'il est francophone?
Oui.
Il est francophone.
Oui, oui. Il parle
est-ce qu'il est belge?
Il parle un peu avec l'accent belge.
Il est belge.
Très nul, mon accent belge.
Est-ce qu'il a eu des responsabilités à l'Union Européenne?
Oui.
Charles Michel?
Oui.
Allez,
Charles Michel, le président du Conseil.
Et c'est un peu un prénom-nom, quoi.
De l'Union Européenne.
Ça aurait pu être un prénom composé.
Michel, absolument, Michel. Ça aurait pu.
Moi, je le dis sincèrement, ça triche. Hein.
Absolument pas.
Ça va être très clair.
Ça a été choqué par le
mais
jeu.
Je suis très choqué.
Mesdames et messieurs, on va remercier du fond du cœur Charles et Vincent.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. Je vous laisse très bientôt. Ouais.
Merci. Vas-y.